bienvenue pour une nouvelle semaine de Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur la nouvelle appli France Inter. Se sentir seul au monde, dans le brouhaha d'une conversation avec des proches, ne retenir qu'une réplique sur deux au cinéma, ne pas bien comprendre ce que vos collègues vous disent au bureau, écorcher le nom d'un nouvel interlocuteur face au professeur Tournesol, nous sommes de plus en plus concernés par des problèmes d'audition. Selon certaines estimations, un Français sur 10 entendrait mal. Nous verrons que la cousine auditive de la presbytie, la presbyacousie, fait perdre 1% d'audition par an, mais également ses facultés mentales si l'on n'est pas appareillé, que la perte d'audition dépend de notre passé auditif et que les jeunes sont les plus vulnérables en la matière. Nous vous dirons comment préserver son audition dans un monde beaucoup trop bruyant, quels sont les premiers signes de la déficience auditive qui s'installe à bas bruit de façon très sournoise, et puis nous reviendrons également sur les acouphènes qui altèrent la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Nous attendons vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter où Ulysse vous attend au 01 45 24 7000. Et puis dans quelques instants, Thibaut de Saint-Maurice nous dira ce qu'est le bruit dans sa petite philo de la vie quotidienne.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Quoi ? T'es peut-être sourd, Frank, t'es peut-être sourdingue.
Qu'est-ce que tu dis ?
T'es sourd, Frank.
Je t'entends très mal.
T'es sourd comme un pont !
Il faudrait peut-être qu'un professionnel m'examine.
Je ne veux pas que vous paniquiez, mais j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Vous devenez sourd, Frank. Complètement sourd. Bon, alors, comme vous le savez, votre tympan droit est foutu. Votre tympan gauche a encore 20% d'audition.
Parlez plus fort !
Ce sont les faits, Frank. Ce sont les faits, Frank. Vous êtes atteint de surdité.
Un extrait du film Frankie Wilde en 2004. Alors pour nous aider à préserver notre audition ce matin, deux invités. Bonjour professeur Bruno Frachet.
Bonjour.
Vous êtes ORL à l'hôpital Rothschild à Paris et vous avez coécrit avec Françoise Bettencourt-Meyers l'audition pour les nuls chez First. Bonjour Philippe Enger.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'association Journée Nationale de l'Audition qui aura lieu le 9 mars prochain. Professeur Bruno Frachet, de façon très pédagogique, comment fonctionne l'audition ?
Alors l'audition, c'est d'abord un bijou, c'est-à-dire qu'on parlera tout à l'heure, on dira qu'il faudra le en prendre soin. Donc le son arrive dans le conduit auditif externe, va frapper le tympan se met à vibrer, les osselets qui sont derrière vibrent et l'instant, on va dire, délicat, c'est dans l'oreille interne, c'est-à-dire quand ces vibrations mécaniques sonores se transforment en vibrations dans les liquides de l'oreille. Un peu comme si vous agitiez la main dans l'air, et puis ensuite vous l'agitez dans l'eau au bord de votre piscine, et vous voyez que c'est beaucoup plus difficile. Donc on voit qu'il y a à cet endroit-là quelque chose d'assez subtil.
Alors on se figure aisément ce que « bien voir » signifie, mais ça veut dire quoi « bien entendre » ?
Ben, on peut peut-être dire que l'audition normale, c'est une audition automatique et irrépressible. Toutes les personnes qui entendent bien en ce moment ne font pas attention à leur audition et n'ont pas besoin de faire d'efforts. Dès l'instant où on se dit « mais qu'est-ce qu'il a dit ?», l'audition n'est plus normale. Donc l'audition est normale, est automatique, irrépressible. On ne peut pas s'empêcher de comprendre.
Alors à partir de quand parle-t-on par exemple de presbyacousie, la cousine de la presbytie ?
La presbyacousie, c'est donc l'audition de la deuxième moitié de la vie, à partir de 55, 60 ans. C'est-à-dire qu'on va perdre progressivement des cellules ciliées. Donc, et on va avoir des difficultés à entendre les sons aigus. En entendant mal les sons aigus, on va mal entendre les consonnes. Les consonnes, c'est ce qui fait le sens de la parole. Et donc, on va avoir des difficultés à comprendre la parole, surtout dans le bruit.
Alors, on peut commencer à mal entendre beaucoup plus tôt. Tout dépend de son passé auditif. Par exemple, si on est un jeune homme, une jeune femme qui écoute la musique trop fort dans ses écouteurs, eh bien, on se prépare à une presbyacousie plus précoce.
Plus précoce, c'est-à-dire que l'état auditif de la deuxième moitié de la vie, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire pendant la jeunesse, avec essentiellement ce qu'on appelle les traumatismes sonores, c'est-à-dire la surutilisation de l'audition. Ça peut être aussi la prise de médicaments, par exemple, qui peuvent être dangereux pour l'audition.
Donc tout le monde ne part pas avec le même capital auditif.
Absolument, il y a des fragilités auditives et qui vont certainement être dépistées assez facilement dans les années qui viennent. Et donc certaines personnes ont vraiment intérêt à faire encore plus attention que les autres à leur audition.
Philippe Enger, ce jeudi aura lieu la 20e journée de l'audition. Au cœur de cette journée, l'idée que bien entendre contribue à améliorer la qualité de vie.
Bien sûr, oui. Il est évident qu'on estime qu'à peu près 40% des informations sont traitées par l'oreille. Donc quelqu'un qui perd de l'audition a un vrai handicap. Et donc on dit aux gens, vous avez un capital auditif, préservez-le.
Et puis, professeur Frachet, protéger son ouïe, c'est aussi protéger son déclin cognitif.
Oui, on a fait des études très précises maintenant. C'est-à-dire qu'à 70 ans, par exemple, si vous avez 25 décibels de perte, ce qui est vraiment pas une surdité ou une audition très, très pénalisée, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle un déclin cognitif équivalent à quelqu'un de 77 ans.
Pourquoi?
Parce que, quand vous entendez quelqu'un, surtout s'il y a du bruit, vous essayez de comprendre ce qu'il dit et vous allouez des potentialités intellectuelles, c'est-à-dire des moyens intellectuels et du temps pour essayer de comprendre tout simplement ce que dit la personne en face de vous. Et pendant ce temps-là, vous faites pas ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire évoquer des souvenirs ou de la compréhension tout simplement. Donc on choisit pour essayer de comprendre ce que la personne dit et non plus pour faire des actions intellectuelles. Et donc ça, c'est très dommage.
Philippe Enger, pourquoi se moque-t-on plus facilement de ceux qui entendent mal que de ceux qui voient mal? Moi, je me rappelle de la quasi-affaire d'État quand la ministre Roselyne Bachelot avait révélé l'appareillage auditif du président Chirac. Ça reste encore un sujet tabou. Alors, devenir sourd, devenir malentendant?
Oui, parce que il est évident qu'il y a une problématique liée à l'âge. C'est-à-dire que, par exemple, pour cette affaire que vous parlez, c'est vrai que il voulait absolument pas paraître plus âgé que Sarkozy à l'époque. Et donc, pour lui, la perte auditive était vraiment liée à l'âge. Et aujourd'hui, ça reste encore un petit peu vrai. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent à l'appareillage que tardivement, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore l'âge de se faire appareiller.
Bruno Frachet, on a du mal à avouer que l'on devient sourd comme un pot.
Oui, absolument. Il faut bien dire que il va falloir acheter un appareil qu'on n'a pas du tout envie d'acheter et qui fait vieux. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de handicaps pour accéder à cette solution. Et pourtant, c'est la meilleure des solutions et en tout cas la seule.
Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez d'où ?
De Toulouse.
Bienvenue. Alors, vous êtes le directeur d'une association qui s'appelle la Boîte à Outils ?
Oui, c'est ça, la Boîte à Outils. Et on organise des séjours artistiques, musique et cinéma, et des séjours qui s'appellent Rock the Casbah. Donc on pratique les musiques amplifiées.
Et donc vous développez des ateliers et vous sensibilisez les ados au risque auditif, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que on profite des ateliers musique qu'on fait, musique amplifiée pendant les vacances scolaires, pour sensibiliser les jeunes, les adolescents, hein, on s'adresse à un public de 9 à 17 ans, sur les risques auditifs. Et ben, pour ça, il y a des dispositifs qui sont faits au niveau national. Il y a un site qui s'appelle Agissons, qui nous permet d'avoir du matériel qu'on peut passer aux jeunes, du matériel type flyer, affiche, etc., pour les sensibiliser à la question des risques auditifs, et aussi des bouchons d'oreilles qu'on achète à des prix dérisoires, ce qui permet d'organiser, lors de nos répétitions, d'avoir des jeunes qui sont sensibilisés, qui ont des bouchons d'oreilles, etc. Donc c'est un moment privilégié pour les sensibiliser à la question des risques auditifs, quoi, de la musique.
Professeur Bruno Frachet.
Oui, c'est absolument essentiel. Cette action l'association Agissons est extrêmement utile avec la distribution de ces bouchons d'oreilles. Il faut aussi proposer aux personnes de s'éloigner tout simplement des baffles. C'est-à-dire qu'on diminue beaucoup, beaucoup le risque auditif quand on s'éloigne des haut-parleurs. Et il faut aussi proposer des arrêts, c'est-à-dire non pas d'aller fumer une cigarette, c'est pas un médecin qui va le dire, mais de sortir que les oreilles se reposent un peu avant de retourner dans la fournaise auditive.
Merci beaucoup Patrick de nous avoir appelé. Nous reviendrons tout à l'heure largement sur les risques auditifs qui touchent surtout les jeunes. Bonjour Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Alors vous reviendrez tout à l'heure sur l'utilisation nocturne des écouteurs.
Ben oui, de plus en plus de gens en fait s'endorment avec un casque et ils écoutent de la musique parce que ça les relaxe, mais c'est une pratique qui n'est pas sans risque pour l'audition.
Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et on retrouve tout de suite la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Comment s'est passé votre week-end? Pas trop bruyant, ça va?
Non, ça va, assez calme.
Alors ce matin, vous vous interrogez sur le bruit et en particulier sur tous ces petits bruits qui peuplent notre quotidien.
Robert a des voisins qui se couchent bien plus tard, à 2h du matin. Et pour cause, il habite en face d'un bar dans un quartier animé de Paris. Depuis 6-7 ans maintenant, ses nuits sont devenues impossibles.
On vit au gré de l'ouverture de porte avec la musique qui nous saute au visage, ou aux oreilles tout au moins, quand la porte s'ouvre. Là, on a changé la fenêtre, on est passé en fenêtre phonique renforcée.
J'espère, Ali, que vous ne souffrez pas trop du bruit de vos voisins.
Un petit peu.
Voilà, mais pour beaucoup, donc, le bruit représente une des plus grandes nuisances du quotidien, que ce soit donc le bruit des voisins, le bruit de la rue, du train, de l'autoroute qui passe à côté, ou le bruit des travaux aussi des voisins, ou de la rue. Et puis tous ces petits bruits minuscules de ceux qui vivent avec nous hein, et qui, à la longue, jouent avec nos nerfs, le raclement de gorge, le ronflement, les étournements, bref... Quand il y a du bruit, il y a de la gêne et puis bien souvent aussi donc un conflit. Il n'y a qu'à voir le nombre de mots qui nous servent à dire cette gêne du bruit. Hein. On parle de tapage, de vacarme, de chahut, de brouhaha, etc.
Et pourtant, il n'est pas sûr que le bruit existe vraiment.
Oui, alors, entendons-nous bien, justement. Les sons qui font du bruit ont des fréquences que l'on peut mesurer, que l'on peut décrire et qui entrent donc en contact, le professeur Frachet vient de le rappeler, avec notre sens de l'audition. Il y a bien une réalité physique du bruit, mais juste en tant que son, pas en tant que bruit. Le fait qu'un son soit considéré comme un bruit, c'est un jugement personnel ou culturel. Votre voisin musicien, Ali, quand il travaille, il joue de la musique. Mais pour vous, il fait du bruit. Les clients du bar dans la rue discutent et rient de bon cœur, ils passent un bon moment. Mais pour nous, qui essayons de dormir, ils font du bruit. En revanche, le bruit des vagues sur la plage, le bruit du vent dans les arbres, le bruit de la rivière qui s'écoule, eux ne nous gênent pas. On en fait même parfois des CD relaxants. Voilà, Nietzsche disait « il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations ». On peut dire ici comme lui « il n'y a pas de bruit, il n'y a que des interprétations ». Le bruit donc, en un sens, n'existe pas objectivement, c'est moi qui l'invente. Il est le résultat de ma propre perspective sur les événements auditifs.
Dis-moi ce qui est bruyant pour toi et je te dirai comment tu vas.
Oui, c'est un peu ça. En fait, ma sensibilité au bruit est plus en fait révélatrice de mon état intérieur que d'un état extérieur objectivement bruyant. Le paradoxe, c'est qu'au fond, on a besoin du bruit. On se plaint de son intensité quand il y en a trop ou qu'il est trop fort. On se plaint parfois aussi de son mauvais timing, c'est-à-dire que quand on voudrait se reposer ou travailler de façon concentrée, en fait, on est plus sensible au bruit. Mais le bruit, à d'autres moments, est aussi rassurant. Le bruit de la ville qui s'éveille, les bruits de la campagne qui se lèvent, le bruit du monde, le bruit des gens et le bruit des choses qui font une sorte de base rythmique de notre quotidien. Et dans cette perspective-là, justement, c'est le silence qui effraie. Dès lors qu'il n'y a plus de bruit, que le silence règne, plus rien ne me divertit de moi-même. Et comme dirait le philosophe Pascal, je me retrouve seul avec moi-même, effrayé par la conscience de ma propre fragilité et par la misère de ma condition mortelle.
Comment donc vivre avec le bruit ?
Eh ben, comme souvent, Alice, n'est pas la chose en elle-même qui pose problème, mais c'est la façon dont nous y rapportons. Le bruit est bruyant, si je peux dire, hein, quand il s'impose à nous, quand il entre par effraction dans notre sensibilité. Et le bruit est rassurant quand il est ce dont on se rend attentif, quand on se met à l'écouter et non plus à le subir. Le bruit de la mer, du vent dans les arbres, hein, du voisin qui sort de chez lui, comme tous les matins, et de cette journée qui recommence, ou encore des enfants qui jouent dans la cour de récréation. Et puis l'inverse est vrai aussi. Le silence est effrayant quand il s'impose et il est reposant quand nous y consentons. Tout donc n'est pas à jeter dans le bruit. Il est le témoin de ma présence au monde, de ma présence aux autres et finalement aussi de ma présence à moi-même.
La petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, c'est tous les lundis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène avant midi, mais elle ne viendra pas. Pas avant 3h30, car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés, mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si son mari veut pas. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène pour lui dire que cette fois c'est fini, que j'en ai marre de savoir qu'elle s'endort avec lui. Elle me dit qu'elle a des enfants et que ça ne se fait pas de les noyer dans la rivière comme des tout petits chats. La famille décomposée, c'est le carnage assuré. Une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait? J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si son mari va pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. Mais l'amour ne suffit pas. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène.
Mickey 3D, j'attends Mylène.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h24, comment préserver notre audition à tout âge? C'est la question que je pose ce matin au médecin ORL, le professeur Bruno Frachet, et à Philippe Metzger, secrétaire général de la journée de l'audition qui aura lieu jeudi. Professeur Frachet, la déficience auditive s'installe de façon très sournoise, à bas bruit.
Absolument, on perd à peu près 1 décibel, c'est pas beaucoup, 1 décibel, c'est la différence qu'on est capable de faire entre deux sons, donc c'est pas grand chose, et on perd 1 décibel par an.
Alors c'est un handicap invisible pour soi et pour les autres.
Ben oui, tout va bien tant qu'on ne vous pose pas une question et que vous êtes incapable de répondre. Donc voilà, c'est vraiment un handicap invisible et c'est un peu aussi le problème de la prothèse auditive. C'est-à-dire que si vous mettez une prothèse auditive pour mieux entendre, alors le handicap va devenir visible.
En France, 1/3 seulement des déficients auditifs sont appareillés, contrairement à l'Allemagne où c'est nettement plus élevé.
C'est pas nettement plus élevé, mais c'est plus élevé en Allemagne. Donc, effectivement, en France, on a du mal à adapter des appareillages auditifs. Mais dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que on est parti de 10%, 15%, et maintenant, on est bien mieux entre 30 et 35%.
Philippe Metzger.
Oui.
Il faut dire que refuser de s'appareiller, ça rend difficile la vie sociale. Ça, il faut le marquer.
Bien sûr. Et puis, la précocité de l'appareillage est un facteur essentiel à la réussite. C'est-à-dire que, en vérité, quand vous perdez de l'audition, vous avez une espèce de cercle vicieux qui fait que vous avez beaucoup de mal à comprendre. Donc, vous faites moins d'efforts pour essayer de comprendre. Et plus tôt vous allez perdre cette capacité, et plus que ça sera compliqué à vous la redonner.
Bonjour Antoine, vous appelez de Paris. Bienvenue.
Exactement. Merci. Il vient d'être évoqué la question que je voulais poser. Moi, j'ai 40 ans. J'ai pas mal chassé, donc je pense que ça a affecté mes capacités auditives. Donc je sens bien que voilà que je suis un petit peu sourd. Et la question que je voulais poser, effectivement, c'était de savoir s'il est intéressant de se faire appareiller dès maintenant.
Vous avez 40 ans, c'est ça ?
Voilà, j'ai 40 ans. Où est-ce qu'il vaut mieux attendre encore un petit peu pour pousser le plus possible sur l'audition naturelle, quoi ?
Professeur Fraché.
Moi, je recommanderais de faire un essai d'appareillage et de voir si la situation s'améliore. À la limite, dès qu'on se pose la question, ça mérite de prendre une solution. Et l'énorme avantage, c'est qu'on peut faire un essai pour bien vérifier que ça sert à quelque chose.
Antoine, ça vous gêne socialement de vous faire appareiller ?
Non, ça me gêne pas. Objectivement, j'ai déjà des cheveux blancs.
Bon, ben alors, allez vous faire appareiller, mon cher Antoine.
Alors, merci.
Oui, allez-y.
Il vaut mieux aller dans les boutiques qu'on voit qui proposent des choses ou aller voir un ORL.
Le parcours de soins, entre guillemets, fait d'abord passer par l'ORL qui va établir le diagnostic, qui va faire une évaluation de votre niveau auditif. Après, ça sera l'audioprothésiste qui va mettre en pratique la solution.
Mais on peut se faire appareiller sans passer par un médecin ORL ?
En théorie, oui et non. En théorie, non. En pratique, sans doute, oui. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais... voilà, c'est comme ça, c'est le parcours de soins.
Merci beaucoup Antoine de nous avoir appelé. Bienvenue Dominique, vous appelez de Rodez, dans l'Aveyron.
Oui, tout à fait, bonjour.
Alors vous êtes malentendante, c'est ça, depuis quelques années ?
Voilà, je suis malentendante depuis toujours en fait, mais ça a été décelé vers les 25-30 ans. Mmh. Je ne me suis pas équipée à l'époque par un manque d'argent. Et ce qui fait que je me suis habituée à ne pas entendre. J'ai commencé à apprendre à lire un petit peu sur les lèvres, enfin, pas un apprentissage officiel, mais je regarde la bouche. Et par la suite, donc, je me suis équipée. Ce qui fait que ça quand même ça aide beaucoup, mais ça ne résout pas pour autant le problème parce que ça ne restitue pas l'audition, une bonne audition. Et je suis souvent exclue, j'en suis même certaine, lors de repas, de réunions, les gens rigolent, discutent, et on en arrive à sourire bêtement, je vais dire, et donner l'illusion qu'on comprend, puisque on demande une fois pardon, on redemande une deuxième fois, puis la troisième fois, on fait comme si on avait compris, puis voilà.
Dominique, est-ce que ça altère votre comportement ? Est-ce que ça altère votre comportement, Dominique ?
Oui.
De quelle façon ?
Complètement. Je me sens, disons, un petit peu désagréable par moment, parce que je me dis c'est pas possible de même au quotidien, mon entourage, quand je vois que les gens ne me regardent pas quand ils parlent, ça me rend irritable, il faut reconnaître. Hein.
Philippe Medger.
Oui, bien sûr. On est là devant vraiment un cas d'école. Hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut-être s'est fait appareiller un petit peu tard. Elle nous a dit que c'était pour des problèmes de moyens. Moi, je dirais à tous les gens qui ont un problème d'audition, avant de penser que vous n'avez pas les moyens de vous faire appareiller, consultez déjà un ORL et puis voyez un professionnel de santé qui va regarder avec vous les possibilités. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut appareiller pratiquement toute personne, quel que soit son budget.
Dominique, je crois savoir que vous êtes devenue malentendante suite à des otites à répétition.
Oui, c'est ce qui m'a été dit donc par l'ORL. Donc effectivement, je suis sujette aux otites, donc je pense qu'effectivement c'est peut-être ça. Hein.
Et question de Lara qui demande, les otites à répétition dans l'enfance peuvent-elles entraîner une perte d'audition à l'âge adulte ? Professeur Fraché.
Oui, c'est possible, mais c'est pas systématique. Hein. C'est-à-dire que l'oreille peut parfaitement guérir après des épisodes d'otite et sans donner de surdité à l'âge adulte.
Merci beaucoup Dominique de nous avoir appelé de Rodez. Alors, c'est quoi exactement la surdité, professeur Fraché ? Le spectre est large, hein, de la surdité légère à la surdité complète en passant par la malentendance.
Oui, habituellement, les personnes malentendantes n'aiment pas qu'on parle de surdité. Pour les médecins, c'est surdité. Effectivement, tout dépend du niveau. C'est-à-dire, il y a la surdité légère, la surdité moyenne, la surdité sévère et la surdité profonde. Donc, à chaque fois, on a des solutions à proposer. Essentiellement la prothèse auditive, mais éventuellement plus tardivement ce qu'on appelle l'implant cochléaire qui permet donc de beaux résultats.
C'est quoi l'implant cochléaire ?
L'implant cochléaire s'adresse à des surdités sévères ou profondes quand la prothèse conventionnelle ne marche pas, ne fonctionne pas. Et donc, on va mettre en place des petites électrodes dans l'oreille interne, ce qui va permettre de restaurer de façon assez admirable une audition.
Alors, quels sont les signes d'un début de déficience auditive, les signes qui doivent vraiment nous alerter, Philippe Metzger?
Alors, il y a un des signes qui aujourd'hui assez flagrant. Par exemple, si quelqu'un vous dit à la télévision, les acteurs parlent de moins en moins bien, qu'ils articulent de moins en moins bien.
Les jeunes surtout.
Là, ils n'ont pas fait la comédie française. Ils parlent trop vite. Puis en plus, la musique. Alors, la musique est beaucoup trop forte par rapport à la parole. Ça, c'est un signe d'une déficience auditive.
La fatigue aussi après une soirée passée à essayer de comprendre la conversation, professeur Fraché.
Oui, absolument. La fatigue, l'oreille interne, c'est comme une petite usine chimique. Donc, chaque fois que l'audition fonctionne, eh bien, ça consomme ces produits chimiques, entre guillemets. Et donc, quand on en a consommé beaucoup, eh bien, évidemment, ça marche moins bien.
Quand on ne comprend plus les dialogues noyés dans le bruit et la musique, c'est un signe aussi?
Oui, typiquement, par exemple, le journal télévisé, je comprends parfaitement. Par contre, les dialogues avec un fond sonore musical, je ne comprends pas. Donc ça, c'est assez typique. Le premier signe de la malentendance, c'est la difficulté de comprendre dans le bruit.
Et puis, par exemple, également dans la vie quotidienne, quand on ne comprend plus les montants annoncés à la caisse d'un commerçant.
Oui, parce que c'est vrai que la presbyacousie atteint surtout les aigus, ce qui fait que les consonnes sont un petit peu masquées. Et entre 10 et 6, par exemple, ça devient compliqué dès qu'on a un petit peu de perte d'acuité auditive dans les aigus.
C'est pour ça que les personnes payent souvent en carte bleue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé du chèque, du montant du chèque, ils payent en carte bleue.
Je dois avouer que je paye systématiquement par carte bleue.
Ah, hein, bon. C'est peut-être un signe.
Alors, premier signe aussi d'un début de surdité ou de malentendance, c'est quand on n'entend plus les bruits subtils de la nature. Professeur Fraché.
Oui, le bruit des oiseaux et d'ailleurs les personnes qui bénéficient d'une restauration auditive par les prothèses ou par les implants, le premier signe dont ils parlent, c'est je réentends le bruit des oiseaux, le son des oiseaux.
Allez, nous attendons toutes vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et au standard d'Inter 01 45 24 7000. Et voici un titre qu'on a très envie d'écouter très très fort dans son casque.
Ali Rebi sur France Inter.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you. Thibaut de Saint-Maurice, pour vous, c'était du bruit. Ça, vous me disiez ça hors antenne.
Je disais que parfois, c'est une façon de disqualifier de la musique en disant que c'est du bruit. Mais pas ça.
Ali Rebi, grand bien vous fasse. sur France Inter.
10h36, comment préserver notre audition à tout âge? La question que je pose ce matin au médecin ORL Bruno Frachet et à Philippe Metzger, secrétaire général de la journée de l'audition qui aura lieu jeudi.
Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen.
Vous ne pouvez emporter votre chaîne stéréo? Emportez votre baladeur cassette. Depuis 5 ans, ils sont de plus en plus nombreux dans le bus, le métro ou la rue. Ils vivent dans leur maison.
Une mode, oui, mais une mode peut-être pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres.
Montage de Lina, toujours d'actualité avec la voix de Léon Zitrone au tout début des années 1980. Philippe Metzger, jeune ou moins jeune, nous écoutons la musique beaucoup trop fort et beaucoup trop longtemps. Oui. Dans nos écouteurs et dans nos casques.
On a fait une enquête pour savoir, et on s'aperçoit que les jeunes ont un téléphone portable de plus en plus jeune et qui s'en servent essentiellement pour écouter de la musique. Et ils écoutent de la musique plus d'une heure par jour en réalité.
Bruno Frachet, écouter de la musique à plus de 100 décibels, c'est vraiment dangereux. À titre de comparaison, un aspirateur en marche, c'est 75-80 décibels.
Oui, 100 décibels, c'est beaucoup, surtout si on l'utilise pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une fatigue, on cumule la consommation des produits de l'oreille interne et qui fait que l'oreille se met à genoux, entre guillemets, au bout d'un certain temps. Donc, c'est très important d'avoir un repos, le repos de nuit, sans musique et sans bruit.
Écouter de la musique à plus de 100 décibels, longtemps, c'est du suicide auditif?
Peut-être pas du suicide auditif parce que ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles. Mais il y a eu quand même des normes qui ont été fixées. Par exemple, 205 décibels pour un baladeur. Donc, on voit bien que c'est un seuil qu'il faut pas dépasser.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, pourquoi ne faut-il pas s'endormir avec ses écouteurs? Ça me semble une question de bon sens, mais bon.
Mais oui, de bon sens, mais en même temps, de plus en plus de gens le font, parce que c'est vrai, on trouve même des programmes sommeil pour s'endormir, de la musique pour s'endormir, et c'est vrai que ça détend, ça permet de se déconnecter. Ce qu'on oublie, c'est que c'est un risque pour l'audition. Comme le disait le professeur Frachet, bah, les oreilles ont besoin de se reposer. L'OMS déconseille d'utiliser des casques plus d'une heure par jour. Donc évidemment, ça va entraîner une fatigue oculaire. Évidemment, si on le fait de façon répétée, ça va entraîner un vieillissement précoce de l'oreille. Et puis, c'est pas bon pour le sommeil, parce qu'il y a eu aussi des études qui ont montré qu'en fait, ça allongeait le temps de sommeil et que ça rendait le sommeil moins récupérateur. Et surtout, je voudrais alerter sur quelque chose. Il y avait une étude en octobre 2015 qui montrait que près d'un enfant sur 10 de moins de 2 ans s'endormit avec un casque. Alors là, il faudrait quand même dire aux parents que remplacer le casque, la berceuse par un casque, c'est dangereux. À cet âge-là, l'oreille est en pleine construction. Il faut vraiment éviter de le faire. C'est pas raisonnable.
Professeur Bruno Frachet.
Oui, absolument. D'abord, c'est une pratique qui est quand même étonnante. Vous dites remplacer la berceuse par un casque, c'est quand même terrorisant. Il n'y a pas le contact physique de la mère qui berce son enfant, etc. On sait que les enfants acquièrent de la confiance en eux en fonction de la relation avec leur mère. Donc ça, c'est assez terrorisant. Et alors, au niveau mécanisme physiologique, c'est effectivement une fatigue auditive assurée et donc peut-être des risques dans la vie future au niveau auditif.
Ça se traduit comment, la fatigue auditive ?
Fatigue auditive, c'est que vous comprenez moins bien la parole dans le bruit, par exemple, essentiellement, et donc ce qui est fou,
une sensation cotonneuse dans l'oreille,
par
c'est
exemple,
ça
par exemple. Et ce qui est fou, c'est que c'est facile à corriger. C'est-à-dire, il faut s'arrêter.
Philippe Metzger, la génération qui écoute la musique beaucoup trop fort s'expose à des troubles auditifs irréversibles à l'âge adulte ou même avant.
Oui, c'est-à-dire qu'on a souvent mis en évidence le fait que les micro-traumatismes sonores que vous pouvez avoir tout au long de votre vie finissent par cumuler à une psyodité irréversible.
Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un chiffre qui m'a absolument stupéfié, plus d'un milliard de jeunes dans le monde risqueraient une déficience auditive liée à l'exposition de la musique.
C'est vrai que c'est des chiffres très alarmistes, mais à partir du moment où, comme le dit le professeur Bruno Frachet, vous respectez des temps de pause et surtout, il faut dire aux jeunes, la sensibilité de l'oreille est très nettement supérieure à des niveaux faibles, des niveaux moyens, c'était entre 50 et 70 décibels. Vous allez entendre toute la qualité auditive. Au-delà, vous allez surtout entendre du bruit ou du moins du rythme, mais pas tellement de qualité auditive.
Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour.
Vous appelez de l'Ain, où exactement ?
J'habite la ville d'Oyonnax.
Bon, alors vous êtes musicien, c'est ça ?
Je suis musicien et batteur en plus.
Bon, alors comment voilà. Ça se passe au niveau de l'audition, Jean-Baptiste ?
Bah écoutez, je ne joue pas un style de musique qui est trop disposé, enfin, qui permet trop d'avoir des problèmes d'audition. Mais ma question, c'était de savoir quelle est la proportion, en fait, entre le fait de jouer fort et d'avoir des problèmes liés à l'audition quand on est musicien, et puis l'usure naturelle, en fait, quand on prend de l'âge, quoi. Je crois que c'est Raymond Zarek des Danses qui disait qu'il avait fini par être complètement sourd de l'oreille gauche. À force d'avoir
Jean-Baptiste, on est obligé d'interrompre notre conversation à cause de. Voilà. On est obligé d'interrompre à cause de la mauvaise qualité du téléphone. Une question par courriel qui rejoint celle de Jean-Baptiste. Je suis musicien, batteur, j'ai des acouphènes. Est-ce que je dois arrêter la musique ?
C'est un vrai problème. C'est-à-dire que il est la batterie déclenche des traumatismes sonores. Pour d'autres musiciens, ça peut être aussi dramatique. Il y a eu une étude dans un grand orchestre pour voir l'atteinte auditive en fonction de la position dans l'orchestre. Par exemple, ceux qui sont devant les cors subissent beaucoup les traumatismes sonores chroniques des musiciens qui jouent derrière eux. Donc voilà, la question, c'est difficile entre le plaisir et le danger de fixer la limite, c'est-à-dire le plaisir de continuer à faire de la musique et le danger de s'exposer au bruit. Donc,
ce batteur, il doit mettre des bouchons, par exemple ?
Moi, je pense que il doit mettre des bouchons absolument adaptés à son type de musique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'étouffer complètement la musique qu'il reçoit, mais de faire des bouchons qui vont permettre quand même les bruits impulsionnels et qui vont permettre de profiter du jeu.
Qu'est-ce qu'un acouphène ?
Un acouphène, c'est une espèce d'expression de la douleur au niveau auditif. C'est-à-dire qu'on a un son qui n'existe pas dans le réel, mais qui est perçu par le patient.
Et ce ne sont pas des hallucinations auditives, professeur Frachet ?
Pas du tout, non. L'acouphène, c'est quelque chose d'assez sommaire. L'hallucination, c'est plutôt du langage, de la musique, des ritournelles, etc. C'est un peu différent. Donc, il y a une frontière entre les deux, mais parler d'acouphène, ce sont des bruits simples.
Alors, en France, 16 millions de personnes souffrent de sifflements ou de bourdonnements passagers, selon une étude Ipsos pour la Journée nationale de l'audition réalisée en 2014. Ça pourrit bien la vie, les acouphènes, pour beaucoup d'individus.
Ça peut pourrir la vie. C'est-à-dire que la loi générale de l'acouphène, c'est quand même ce qu'on appelle l'habituation. C'est-à-dire que le cerveau, il va comprendre au bout d'un moment que cette affaire-là n'est pas grave. Le cerveau, ça scrute en permanence toutes les entrées. Hein, j'ai mal à la cheville, ah bah oui, c'est normal, j'ai fait hier un faux pas, etc. etc. L'acouphène, c'est un peu un problème. C'est que les médecins sont pas très forts sur à la fois la prise en charge et aussi la raison. Donc, ça inquiète quelque part. Et donc, la première mesure, c'est d'essayer de rassurer la personne vis-à-vis de la cause pour que...
Ça peut être très envahissant, ça peut vraiment altérer la qualité de vie.
Absolument, il y a à peu près 250 000 personnes qui consultent inlassablement, mais la grande majorité des personnes finissent par oublier. Certes, si on leur dit « est-ce que tu as toujours tes acouphènes ?», ils vont répondre en cherchant un peu « oui, j'ai ». Mais ça n'entraîne pas de troubles du comportement. C'est-à-dire que on pose la question, qu'est-ce que ça vous empêche de faire dans la vie? La réponse, c'est souvent rien.
Et Jean-Michel nous écrit par courriel, je suis atteinte d'acouphènes depuis 15 ans environ. La seule réponse médicale entendue jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sinon d'essayer de les oublier, comme vous le préconisez, professeur Fraché, ou bien de prendre des antidépresseurs.
Il y a toute une graduation dans la mise en route du traitement. Ça peut être du conseil, ça peut être des médicaments, ça peut être surtout faire entendre mieux et plus fort les personnes qui souffrent d'acouphènes.
Philippe Metzger.
Oui, c'est vrai que dans l'acouphène, il y a une composante anxiogène qui est terrible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont obsessionnels sur leur acouphène, ils vont leur donner une importance qui n'existe pas, qui n'est pas réelle. Donc la prise en charge du patient acouphénique va commencer par le rassurer, comme dit le professeur, et lui faire comprendre que finalement c'est pas quelque chose de très grave et qui va normalement s'estomper avec le temps. Quand par bonheur, je dirais, il y a une perte d'acuité auditive associée, le fait d'appareiller peut masquer énormément l'acouphène.
J'arrivais pas à dormir, c'est un cauchemar. J'avais l'impression que j'avais des hurlements dans les oreilles. J'avais l'impression même d'avoir presque des coups de poignard dans les oreilles, tellement ça me... et d'avoir la tête prise comme dans un étau. Enfin, j'avais l'impression que la tête allait exploser.
Au début, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais très sensible aux sons, type vaisselle, cris d'enfant, ou cris tout court, tous les sons percussifs, en fait. Voilà, ces sons-là me faisaient mal, en fait.
Extrait d'une création sonore diffusée sur France Culture le 18 février 2016. Qu'est-ce que l'hyperacousie dont on vient d'écouter des témoignages?
L'hyperacousie, c'est un peu mystérieux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est l'oreille interne qui fonctionne mal, si c'est le cerveau qui est mal calé. Grossièrement, c'est l'intolérance à des sons que votre voisin tolère parfaitement.
Et c'est une pathologie?
C'est un symptôme, c'est-à-dire qu'on se plaint d'entendre trop fort. Et des fois, c'est rien du tout. C'est le froissement. Vous avez des personnes qui viennent en consultation. Vous posez le stylo un peu normalement, violemment sur la table. C'est les personnes sautent en l'air. Donc, ça peut être le froissement de papier. C'est des personnes qui ont des troubles de comportement, c'est-à-dire qui disent « je ne vais plus dans les supermarchés parce que je ne supporte plus », etc. C'est vraiment quelque chose qui empêche dans la vie de faire quelque chose.
Mais ça n'a rien à voir avec la surdité ou la malentendance.
Si, habituellement, si. Tout D'accord. ça marche ensemble, c'est-à-dire hyperacousie, acouphène, surdité. Et donc la personne se plaint plutôt d'acouphène, parce que c'est ce qu'il y a de plus évident. Mais quand on questionne bien, ce qui les gêne surtout, c'est l'hyperacousie, c'est-à-dire cette intolérance au son fort. Par exemple, aux rames de métro, le métro est extrêmement bruyant, et des personnes se plaignent beaucoup de ce bruit.
Philippe Menger.
Alors, quand on a une personne qui a pas de perte d'acuité auditive et qui a une hyperacousie, la seule solution qu'on a pour l'instant, c'est de lui mettre des bouchons protecteurs, de manière à ce que sa composante anxiogène due à l'hyperacousie disparaisse. C'est-à-dire qu'il va se dire, mais de toute manière, même si le métro fait du bruit, de toute manière, j'ai mes protections auditives, donc je serai protégé. Ça améliore énormément les choses. Pour les gens qui ont une perte d'acuité auditive, aujourd'hui, les appareils auditifs amplifient les sons faibles et protègent les sons forts.
Professeur Fraché.
Oui, et aussi, on fera tout un programme de rééducation. On dit classiquement que si vous avez une grande crainte, une phobie des araignées, si vous voyez jamais d'araignées, vous n'y arriverez pas. Eh bien, le bruit des personnes qui souffrent d'hyperacousie mérite d'être testé progressivement sur des périodes croissantes, etc. Donc, il faut pas s'enfuir.
Allez, nous attendons vos questions par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com et au standard de France Inter 01 45 24 7000.
Lucky you kiss with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy sometimes. It's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to seems so much you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough, just don't make you go crazy, crazy, crazy. I know it's enough, just don't make you go crazy, crazy, crazy.
Titre de Lana Del Rey, Love.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h52, comment préserver notre audition à tout âge en compagnie du professeur Bruno Frachet, médecin ORL, et de Philippe Metzger, secrétaire général de la journée de l'audition qui aura lieu ce jeudi. Professeur Frachet, quels sont les outils pour dépister la surdité, la malentendance? Prenons par exemple le test 1, H-E-I-N. C'est un test de dépistage sur Internet, c'est ça?
Oui, ou Internet ou téléphone ou sur tablette, enfin tous les médias sont possibles. Donc l'idée c'est de dépister et de repérer les personnes qui ont des difficultés de comprendre la parole dans le bruit. Donc le test est très simple, vous êtes devant un clavier, vous entendez des suites de chiffres, 1, 4, 6, et évidemment sur votre clavier, vous tapez 1, 4, 6. Si vous avez une bonne réponse, il y a un petit peu plus de bruit. Et ainsi de suite, donc 15 ou 20 fois on va faire ça, et donc on va arriver à ce qu'on appelle un rapport signal sur bruit, c'est-à-dire votre capacité de comprendre la parole dans le bruit. Si c'est bien, donc vous augmentez le bruit, si c'est pas bien, vous diminuez le bruit et vous allez avoir plus de facilité pour comprendre.
Vous pouvez retrouver ce site. Enfin, ce lien sur notre page Facebook ou sur le site 1-test.fr, 1-HEIN-test.fr. Comment protéger son audition au quotidien, Philippe Metzger?
Alors, je dirais qu'il faut se méfier des surexpositions sonores que vous pouvez avoir, bien sûr, avec votre téléphone portable et vos oreillettes.
Avec sa télé, sa radio aussi.
Avec sa télévision, sa radio. Et puis, si en plus, le soir, vous sortez en boîte de nuit et que vous êtes trop près des enceintes, finalement, vous allez cumuler une dose de son qui va risquer d'être fatale pour votre audition.
Et il est nécessaire d'acheter des objets électroménagers de faible intensité sonore?
Je pense que c'est bien d'avoir le bon aspirateur, c'est sûr.
Est-ce qu'il existe des médicaments qui peuvent provoquer des pertes d'audition?
Oui, il y a des médicaments qui sont toxiques pour l'oreille. Alors, des antibiotiques, mais évidemment, là encore, on est entre, d'un côté, sauver la vie de la personne et d'autre part, lui abîmer l'audition. Mais heureusement, on peut doser les produits toxiques dans le sang, donc... La chimiothérapie aussi peut malheureusement abîmer l'oreille. Donc il y a toute une recherche en ce moment qui se développe pour avoir des protecteurs d'audition en injectant quelque chose dans la cochlée pour éviter que les médicaments toxiques soient moins toxiques.
Pourquoi faut-il se faire vacciner contre les oreillons, la rubéole ou encore la méningite?
Parce que tout ça peut altérer l'audition. Donc, comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Hein. On a un objet qui est extrêmement fragile, la cochlée, et donc c'est très difficile à réparer. Pour l'instant, on fait qu'avec des prothèses auditives. Et donc, l'idée, c'est d'éviter que ça soit altéré.
Philippe Metzger, comment préserver son audition quand on travaille dans un environnement sonore qui nuit à la fois à la qualité du travail et à la qualité de vie?
Alors normalement, quand on travaille dans une ambiance bruyante, il y a la législation du travail vous oblige à porter des protections au-delà de 8 heures d'exposition à 80 décibels. Donc la médecine du travail à ce niveau-là est bien faite. là où on a le plus de problèmes, c'est en dehors du travail finalement. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont bricoler le dimanche, qui vont prendre leur perceuse à percussion, qui vont s'attaquer à un mur en béton. Ils vont peut-être penser à mettre des lunettes de protection, mais ils vont complètement oublier de mettre un casque de protection.
Puis il ne faut pas oublier tous ceux qui travaillent, comme les ouvriers, les agriculteurs, qui travaillent dans un environnement très bruyant.
Oui, c'est vrai que...
Il n'y a pas simplement les employés dans les open space.
Oui, bien sûr. Normalement, il y a des zones quand le bruit est trop fort, où il y a marqué port du casque obligatoire ou port de protection obligatoire. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ne le portent pas, mais logiquement, ils doivent porter une protection auditive.
Professeur Frachet.
Oui, le traumatisme sonore, c'est une vraie plaie financière pour la médecine du travail, parce que ça coûte très cher. Souvent, c'est des personnes jeunes, donc il va y avoir des rentes qui vont se prolonger pendant toute la vie. Et dans le cas présent, on peut, entre guillemets, facilement prévenir, c'est-à-dire porter des protections et des casques.
Un dernier conseil pour nos auditeurs, professeur.
Je redis, vous avez un bijou dans l'oreille, préservez-le, parce que le réparer, c'est très très difficile.
Philippe, c'est vrai que souvent on entend dire les jeunes, moi de toute manière c'est pas grave, quand je serai sourd j'irai voir un audioprothésiste. Je leur dis, oui mais vous savez, l'appareil auditif ne fait pas tout, loin de là, la dame nous l'avait dit. On va répartir une partie des distorsions, des altérations du système auditif, mais loin de réparer totalement l'audition.
Merci Bruno Frachet, je recommande l'audition pour les nuls chez First. Merci Philippe Metger. La 20e journée de l'audition a lieu jeudi 9 mars partout en France. Demain on se demande comment repérer un pervers narcissique avec Alberto Egger et Hélène Vecchiali. Nous attendons vos témoignages au 01 45 24 7000 demain à partir de 9h et par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, Ronan Mahé et Julien Michel. À suivre Nagui et sa belle bande originale.